crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons un tableau intitulé « Vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruine ». D'ailleurs, le titre est encore plus long, nous y reviendrons tout à l'heure, qui mesure 1,15 m par 1,45 m et qui fut peint par le grand artiste Hubert Robert en 1796. Il est le pendant d'un autre tableau, quant à lui intitulé « Projet d'aménagement de la grande galerie ». L'œuvre dont nous parlons aujourd'hui met en scène le Louvre détruit, alors qu'il était encore en cours de préparation, voire d'invention. Le peintre, alors chargé des collections du musée, livre au spectateur une réflexion sur le passage du temps, marqué par le goût de son époque pour la ruine et l'antiquité, ce qui lui a valu le surnom de Robert des Ruines, célébré entre autres par un des grands hommes du siècle des Lumières, Denis Diderot, notre regardeur.
Ô les belles, les sublimes ruines! Quelle fermeté, et en même temps quelle légèreté, sûreté, facilité de pinceau. Quel effet, quelle grandeur, quelle noblesse. Qu'on me dise à qui ces ruines appartiennent, afin que je les vole. Le seul moyen d'acquérir quand on est indigent. Hélas, elles font peut-être si peu de bonheur aux riches stupides qui les possèdent, et elles me rendraient si heureux, propriétaire indolent, époux aveugle. Quel tort te fais-je lorsque je m'approprie des charmes que tu ignores ou que tu négliges? Avec quel étonnement, quelle surprise, je regarde cette voûte brisée, les masses surimposées à cette voûte. Les peuples qui ont élevé ce monument, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Dans quelle énorme profondeur obscure et muette mon œil va-t-il s'égarer? À quelle prodigieuse distance est renvoyée la portion du ciel que j'aperçois à cette ouverture? L'étonnante dégradation de lumière, comme elle s'affaiblit en descendant du haut de cette voûte sur la longueur de ses colonnes, comme ces ténèbres sont pressées par le jour de l'entrée et le jour du fond. On ne se lasse point de regarder. Le temps s'arrête pour celui qui admire. Que j'ai peu vécu. Que ma jeunesse a peu duré.
Denis Diderot, Ruines et paysages, Salon de 1767.
Nous regardons donc la grande galerie du Louvre en ruine. L'immense enfilade, si familière des visiteurs du Louvre, est détruite. L'interminable perspective fuit vers la droite du tableau, scandée par les colonnes redoublées, si caractéristiques de la grande galerie. Les coloris bruns et ocre du premier plan enfouissent les chefs-d'œuvre brisés, les vestiges de la splendeur des civilisations passées, dans l'ombre portée de la voûte qui sans doute protège encore le regardeur. Au loin, les tons s'allègent, éclairés jusqu'à leur dissolution par le ciel bleu pâle, encombré de cumulus gris et blanc. C'est le ciel de traîne, celui d'après l'orage qui annonce les ultimes soubresauts du front chaud qui vient de passer tandis que l'air froid revient stabiliser l'agitation des nuées jusqu'à ce que le beau temps s'installe et que le cycle infini des dépressions ne revienne. Quelques herbes verdâtres ou des mousses viennent colorer le sol défoncé de la ruine, tandis que des arbustes, des buissons, poussent bravement sur ce qui reste des hauts massifs, des berceaux, des voûtes arrachées. Au premier plan, vasque, fût de colonne, un marbre antique célèbre, celui de l'esclave mourant. Des morceaux de plafond à caissons sur lesquels se penche un couple, une tête de Minerve décollée, une statue de philosophe brisée. Assis sur les décombres, l'artiste tend encore son bras pour prendre la mesure de l'Apollon intact qui lui fait face, comme si un peu de conscience demeurait pour mesurer la beauté des choses. Au loin, d'autres silhouettes, enfants curieux, bohémiens peut-être, surveillant un chaudron et son feu, animent la ruine du futur, la ruine d'un lieu indispensable et déjà atteint par les rigueurs du temps, alors que, paradoxalement, il n'était pas encore construit.
Le goût de la ruine est universel à tous les hommes. Ce genre de plaisir naît du sentiment de notre misère, qui est un des instincts de notre mélancolie. Mais nous avons encore en nous un sentiment plus sublime, qui nous fait aimer les ruines indépendamment de tout effet pittoresque et de toute idée de sécurité. C'est celui de la divinité qui se mêle toujours à nos affections mélancoliques. Bernardin de Saint-Pierre, Étude d'après nature, Plaisir de la ruine, 1784.
Avant de parler plus longuement de l'œuvre d'Hubert Robert et de cette poésie de la ruine, je voudrais vous présenter notre invité. J'ai donc la chance de recevoir aujourd'hui l'historien d'art Guillaume Farou. Comment allez-vous, Guillaume ?
Ah, très bien, bonjour.
Merci de revenir. Vous aviez parlé merveilleusement de Fuseli lorsqu'on avait évoqué Shakespeare, l'œuvre de Shakespeare, et vous aviez parlé effectivement de ce grand artiste. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le commissaire de nombreuses expositions prodigieuse. Je pense à Fragonard amoureux, galant et libertin. C'était au Musée Luxembourg en 2015. Vous l'avez bien aimé, hein, celle-là. C'est une de celles qui vous fait plaisir.
Oui, c'est un projet assez, assez chéri, j'avoue. Oui. Assez personnel, oui.
Voilà, mais vous en avez fait beaucoup d'autres. Vous avez été l'un des commissaires de l'exposition Turner et ses peintres au Grand Palais en 2010, qui était venu de la Tate, n'est-ce pas? Et vous avez participé à la très belle exposition en 2011 sur l'Antiquité rêvée au Musée du Louvre. Vous êtes le conservateur en chef en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle et des peintures britanniques et des peintures américaines au Musée du Louvre. C'est un beau titre, une grande responsabilité. Je suis ravi que vous veniez nous parler de ce curieux personnage qui sait faire tant de choses, Hubert Robert. C'est fou ce qu'il sait faire de choses. Des jardins, il est conservateur, il est directeur, il est peintre, il est dessinateur.
Et en plus, il n'est même pas irritant. C'est ça qui est insupportable avec Hubert Robert. C'est qu'effectivement, il y a un côté très, très touche-à-tout. Il a une très, très grande palette créatrice, une grande palette expressive. Et peut-être la première chose pour le caractériser, c'est son charme. Alors, j'avais peur aussi que ce soit un écueil, parce que l'homme était charmant, vraiment charmant. C'est-à-dire qu'il a cumulé les bienveillances et ça l'a beaucoup aidé dans sa carrière. Je pense que l'œuvre aussi a quelque chose de très charmant. Et je parlais d'écueil parce que je pense que c'est ce qui est immédiatement sensible. On est en face d'une œuvre qui a beaucoup de séduction, qui joue avec la séduction, qui n'est pas âpre. C'est pour ça que j'écoutais avec beaucoup d'intérêt les très beaux textes que vous avez choisis, mais qui sont présentés avec une musique qui est une musique très très dramatique, très inquiétante. Ça m'amuse parce que on est à contre-pied. C'est-à-dire que chez Robert, il y a d'abord le charme. D'abord,
oui, oui.
Parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui s'intéresse quand même beaucoup à l'humain.
Il est très recherché dans les salons, personnalité très appréciée, jamais...
Et ce qui n'empêche pas la profondeur. Mais justement, la profondeur, elle est toujours très dissimulée derrière le charme. Moi, en tout cas, ça a été un peu mon parcours de familiarisation progressive avec lui. C'est un artiste que, je suis historien d'art, donc je travaille sur le XVIIIe siècle. Donc, Hubert Robert, pour moi, c'est un des artistes un peu incontournables, enfin, très, très connu. Mais je connaissais, j'avais identifié, certainement pas circonscrit, le charme, la séduction. Mais je pense que quand on s'est lancé dans l'aventure, il y a une dizaine d'années, parce que c'est un très long projet, j'imaginais pas à quel point il y a énormément de profondeur. Il y a quelques œuvres qui sont saillantes, qui sont des œuvres assez graves, qu'on peut identifier, que je voulais d'emblée quand on a commencé à penser à l'exposition. Peut-être le grand plaisir, c'est que, en travaillant sur l'exposition, de découvrir à quel point de très nombreuses œuvres ont une grande richesse, une grande profondeur sous le charme, sous le sourire.
Mais vous savez, Guillaume Farou, quand on visite l'exposition, on a un Hubert Robert que nous ne connaissions pas qui apparaît. Nous connaissons tous, ou beaucoup d'entre nous, ces ruines, mais j'avais l'impression que dans cette exposition, je rappelle simplement à nos auditeurs qu'elle a lieu au Louvre et jusqu'au 30 mai, et qu'il faut la voir, ce n'est plus un personnage pittoresque qui apparaît, c'est beaucoup plus intéressant et complexe que ça. Il y a beaucoup d'aspects dans sa personnalité. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur, au fond, vous nous faisiez ce portrait psychologique très agréable et très important, je crois, parce que ça, c'est une des clés de son succès. Mais comment est-ce qu'il avait tant de cordes à son arc ?
Parce que sans doute, il n'était pas programmé pour être artiste. Je pense que Hubert Humbert, il vient d'une famille, disons, en pleine ascension sociale. Enfin, je force un peu le trait, mais disons qu'il vient d'une famille de la classe bourgeoise. Il a un grand-père notaire. C'est une famille qui est en train de connaître une ascension. Et il n'était pas du tout programmé pour être artiste. Il aurait pu être plutôt avoué ou notaire. Enfin, et c'est sans doute sa sensibilité qui a contrarié un projet familial, contrarié relativement, puisqu'il va connaître le succès et au fond, il va pas du tout déroger par rapport aux aspirations de sa famille. Mais le fait qu'il n'était pas destiné au départ à être artiste, ça lui permet d'être un tout petit peu décalé par rapport au paysage artistique de son temps. On évoquait Fragonard, que j'aime beaucoup, hein, je suis pas le seul.
Mais qu'il va rencontrer longuement, on va en parler lorsqu'il sera à l'Académie de Rome.
Et les deux vont servir parce que Fragonard, lui, il a un profil plus typique. Il vient d'une famille d'artisans. Il a une vraie manière d'aborder son art et d'aborder son art de manière très pratique, avec une faconde, avec une fantaisie.
Une légèreté, un érotisme, une virtuosité permanente.
Tout ce qu'on veut, parce que c'est un immense génie. Mais c'est pas un homme du monde, Fragonard.
Alors c'est Hubert drôle parce Robert... que c'est, pardon de vous interrompre, Guillaume, mais c'est d'ailleurs pas lui notre sujet. Mais néanmoins, vous dites c'est pas un homme du monde. C'est pourtant une peinture du monde.
Oui, c'est
une peinture presque mondaine, non ?
Parce que au fond, les deux sont très grands artistes, donc sont aussi des éponges. C'est un peu le paradoxe d'ailleurs pour Fragonard. Enfin, c'est un peu ce qu'on mettait un peu en exergue dans l'exposition Fragonard amoureux, c'est que l'homme est sans doute très secret, très privé, se protégeant. L'artiste est une éponge. L'artiste comprend très très bien son temps et comprend très très bien les jeux de sociabilité où la séduction est primordiale. Et ça, il sait très bien le restituer dans son œuvre. Dans sa vie, c'est autre chose. Pour en revenir à Hubert Humbert, lui, c'est pas du tout un artisan, c'est quelqu'un qui, au fond, il a une très très bonne éducation, il a une éducation qui se rapproche de celle des privilégiés. Pour le dire quand même, il faut tout de suite le développer. Ses parents sont des intendants de la famille de Steinville, qui est une grande famille aristocratique originaire de Lorraine. Son principal protecteur pendant ses années de formation, c'est le duc de Choiseul. Et le duc de Choiseul...
C'est lui qui va obtenir qu'il aille à la Villa Médicis, oui, alors qu'il n'était pas pris de Rome.
Hubert Humbert, il a tous les talents et toutes les chances. Et en plus, il se fait même pas détester, parce que comme il est agréable...
Charme, parliez, ouais.
C'est son charme et son talent, enfin quand même, ouais, réellement. Ouais. Mais donc le duc de Choiseul qui va le protéger au départ, qui au fond, il est dans sa suite, il est un petit peu dans ses protégés, c'est ce qui lui permet d'avoir une très très bonne éducation. Hubert Humbert est un homme des Lumières, il lit le latin, il lit le grec, il a une très très bonne connaissance de l'histoire, de la littérature, parce qu'il vient d'un milieu qui est en grande proximité avec les milieux privilégiés. Et puis après, sa chance aussi, c'est que la famille d'Estainville et le duc de Choiseul devient, à partir des années 1750-1760, la famille la plus puissante de France, puisque le duc de Choiseul, ça devient le premier ministre, en fait, de Louis XV. Donc,
On
lui refuse rien. Et ça va beaucoup aider Hubert Humbert au début de sa carrière.
Alors, Hubert Humbert va arriver à la Villa Médicis. On va raconter cette histoire. Ça ne nous fera pas perdre de vue l'objectif qui est d'explorer cette fameuse galerie du Louvre en ruine et les contextes. Mais Diderot va le rencontrer et va le rencontrer quand ? On va découvrir l'existence
d'Hubert
Humbert quand ?
Après Rome. Hubert Humbert, il reste 10 ans. Il fait toute sa formation et puis et même il commence à asseoir sa carrière donc de 1754 à 1765. Mais là, il a la tête bien faite, Hubert Humbert, on l'a compris. Donc il s'est rencontré quand il est à Rome, tous les ambassadeurs, les collectionneurs français qui vont aider sa carrière par la suite. Et quand il revient à Paris, il va avoir comme principal objectif de se faire recevoir par l'Académie royale de peinture, qui est une cursus honorum classique pour les meilleurs artistes. Et ça permet surtout, une fois qu'on est reçu par l'Académie, de présenter ses œuvres régulièrement aux expositions, aux salons, qui sont présentés au Louvre tous les 2 ans. Et Diderot le rencontre par son œuvre, disons, par l'intermédiaire de son œuvre, en 67, lorsque Hubert Humbert participe pour la première fois au Salon du Louvre.
Alors, je vous propose, puisqu'on en parle, d'écouter tout de suite Diderot, le regardeur de notre émission, ce extraordinaire critique d'art de l'époque, parler d'Hubert Humbert en 67 à 2 reprises. On va écouter 2 textes qui vont s'enchaîner.
Vous êtes un habile homme. Vous excellerez, vous excellez dans votre genre. Mais étudiez Vernet. Apprenez de lui à dessiner, à peindre, à rendre vos figures intéressantes. Et puisque vous vous êtes voué à la peinture des ruines, sachez que ce genre a sa poétique. Vous l'ignorez absolument. Cherchez-la. Vous avez le faire, mais l'idéal vous manque. Ne sentez-vous pas qu'il y a trop de figures ici? Qu'il faut en effacer les trois quarts? Il n'en faut réserver que celles qui ajouteront à la solitude et au silence. L'effet de ces compositions, bonnes ou mauvaises, c'est de vous laisser dans une douce mélancolie. Nous attachons nos regards sur les débris d'un arc de triomphe, d'un portique, d'une pyramide, d'un temple, d'un palais, et nous revenons sur nous-mêmes. Nous anticipons sur les ravages du temps, et notre imagination disperse sur la terre les édifices mêmes que nous habitons. À l'instant, la solitude et le silence règnent autour de nous. Nous restons seuls de toute une nation qui n'est plus. Et voilà la première ligne de la poétique des ruines. Denis Diderot, Ruines et paysages, Salon de 1767.
Nous entendons Diderot lâcher le mot que nous attendions, la poétique des ruines. Nous sommes avec Guillaume Farou, qui est le commissaire de cette exposition, Hubert Robert, et qui va nous parler. Vous allez nous dire, Guillaume, d'où ça vient, cette poétique des ruines. Est-ce que c'est nouveau?
C'est très ancien. Ni Diderot, ni Hubert Robert ne l'inventent sous nos yeux en 1767, même si Diderot réinterprète, réélabore, bricole, au fond, le terme dans les très belles lignes qu'on vient d'entendre. Non, la poétique des ruines, elle est beaucoup plus ancienne. Quelque part, l'art occidental, à partir de la Renaissance, est délicieusement malade des ruines. C'est-à-dire qu'à partir de l'humanisme, à partir du XVe siècle, quand on peut à nouveau reformater la création, qu'on invoque le modèle canonique de l'Antiquité, on le fait par le truchement des ruines, puisque il faut travailler à partir des vestiges qui sont conservés de l'Antiquité. Là, dans le catalogue, on a la contribution d'Alain Schnapp, grand professeur, grand spécialiste de cette fascination, qui est une fascination au fond constante dans l'humanité et constante aussi dans l'art, pour les ruines, pour ce qu'elles véhiculent de à la fois de mortifère et de régénérateur. Voilà.
Oui, parce que ça n'est qu'une étape d'un cycle où la nature revient et tout recommence.
Oui, de fait, concrètement.
La reconstruction d'une autre civilisation.
Exactement. Et ça, c'est très présent même dans la théorie antique, et c'est aussi très présent dès la Renaissance. Il me semble quand même, alors donc Hubert Robert, c'est pas du tout l'inventeur de ce genre, qui est un genre, celui de la ruine. Et quand il est à Rome même, il y a des grands praticiens du genre qui sont deux créateurs italiens, un peintre et un graveur. Le peintre, c'est Panini, qui est à la fois donc un illustrateur qui représente Rome et beaucoup la Rome moderne et la Rome des ruines, mais qui est aussi un scénographe qui fait beaucoup de décors pour des fêtes, pour des théâtres. Donc il en rajoute aussi sur le côté démesuré des ruines. Et l'autre inspirateur de Robert, c'est Piranèse, immense créateur, archéologue aussi en même temps.
Donc là, c'est un peu particulier. Qu'il va rencontrer à Rome, donc.
Les deux, il les rencontre à Rome. Et les deux, il a témoigné de l'importance qu'ils ont eue pour lui, pour l'élaboration au fond de son répertoire.
Et Panini donne l'impression d'être dans un monde rêvé, beaucoup moins réaliste au fond que le travail presque archéologique que fait Hubert Robert parfois.
Parce que je pense que ça, c'est la grande fracture au fond entre Panini et Piranèse et Hubert Robert, que je mets du même côté. Panini, il est plutôt dans une sorte de tradition de l'élaboration, de l'appréhension de la ruine comme d'un objet qu'on a souvent du mal à recontextualiser. Piranèse, je l'ai évoqué, Piranèse, c'est un artiste qui est un tout petit peu plus jeune, qui est vénitien, mais qui fait toute sa carrière à Rome. Et lui, il est contemporain de ce renversement copernicien de la connaissance du passé, qui est l'archéologie. C'est-à-dire que c'est un peu comme Monsieur Jourdain. Avant le XVIIIe siècle, on faisait de l'archéologie sans le savoir. Et à partir du XVIIIe siècle, on fait des fouilles, on fait toujours des fouilles comme avant, mais on les fait avec la précision, la méthode des lumières. On a une approche qui va être beaucoup plus méthodique. Souvent, d'ailleurs, ce sont des ingénieurs qui organisent les fouilles à Herculanum et Pompéi. Donc, cette idée de délimiter les strates, de tirer au cordeau, d'essayer de comprendre le contexte de la découverte de l'œuvre. Donc, pas uniquement se focaliser sur la ruine superbe et magnifique, mais comprendre aussi d'où elle vient, comment elle fonctionne. Ça, c'est complètement nouveau. Et au fond, c'est la fracture entre Panini qui fait de la scénographie, Panini qui fait du théâtre, qui fait une évocation, disons, poétique, de rêve, comme vous disiez. Et puis, Piranèse, qui lui est quelqu'un qui met la main dans le cambouis, Piranèse, il va organiser des fouilles.
Alors, pour nos auditeurs, Piranèse, certains d'entre vous, chers auditeurs, avez pu admirer un cycle très très connu qui doit être de 1745 à peu près, qui est celui des Carceri, et qui est un moment particulier dans l'œuvre de Piranèse. Piranèse est un graveur avec une manière noire, très obscure et très tourmentée, surtout dans cette partie des Carceri, qui est une période unique dans son travail, et qui a beaucoup d'influence encore aujourd'hui sur l'art d'aujourd'hui, et qui sont des labyrinthes interminables, borgésiens, serais-je tenté de dire, et qu'il a fait sous l'emprise, je crois me souvenir, de la maladie d'ailleurs, une sorte de délire. On frôlait le délire. J'exagère là. Alors reprenez-moi.
Sans doute. Piranèse est un homme des Lumières, mais alors qu'il est tellement homme des Lumières qu'il intègre l'ombre dans ses Lumières. Voilà, pour le dire peut-être avec une sens de la pirouette. Donc Piranèse, au fond, il a une tel besoin de connaissance et de connaissance scientifique que les ruines qu'il fouille, qu'il découvre, il va les reproduire, et il va essayer de les mettre en scène et d'essayer de comprendre la scénographie générale dans laquelle elle s'intégrait. Comme c'est un esprit puissant, sa capacité à projeter au fond les ruines va amener des mises en scène qui sont parfois bigger than life, qui étaient même sans doute beaucoup plus impressionnantes que les monuments qu'il étudiait n'avaient été dans la réalité. Et les Carceri, les prisons en fait, c'est un pan très particulier de sa production. Sa production, c'est quand même surtout une production para-archéologique, tourner autour des ruines, mais les Carceri, c'est un petit projet très spécifique où il invente des architectures inspirées de l'Antiquité, mais qui sont des architectures qui fonctionnent presque à vide. C'est ce que vous disiez dans les Carceri, donc bon, quand même les prisons, donc c'est un espace un tout petit peu oppressant, mais où il imagine des poulies, des instruments dont on imagine que plutôt des instruments pas forcément très bienveillants pour l'humanité. Et on a aussi tout un circuit de portants, d'escaliers qui mènent un peu nulle part ou qui mènent justement vers l'obscurité des lumières. Donc il y a, c'est en cela que c'est un immense créateur. Enfin c'est aussi un des très grands génies des lumières. Et je pense que Robert a été fasciné. Il a compris justement cette espèce de capacité de manier à la fois la clarté, la raison, l'équilibre, mais aussi le contraire, c'est-à-dire la démesure, l'inquiétude, l'obscurité que Piranèse portait. Robert comprend tous ces aspects, et puis va les remodeler, les intégrer, sans doute sans affadir, mais avec ce sens de la séduction qui lui est très particulier et qui au fond est indissociable de ce qu'il est lui, Hubert Robert.
Alors, il y a un mot, je sais que c'est un mot qui est très familier aux historiens d'art, mais peut-être ça vaut la peine de revenir dessus, parce que dans cette poétique de la ruine, cette sorte de grand paradoxe d'une période où on est fasciné à la fois par les ruines qui existent, mais aussi on se met à faire et à installer dans les jardins des fabriques, c'est-à-dire des ruines que l'on construit directement, sans passer par l'étape de la construction de la maison ou de l'espace terminé, eh bien, il y a un autre mot qui vient, évidemment, quand on pense à Piranèse et quand on pense à cette poétique de la ruine, c'est le sublime, qui est très contemporain de cette époque-là, cette idée du sublime. Comment est venue cette idée aux artistes? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors c'est un terme qui est ancien, qui vient même de l'Antiquité, qui vient même des théories de la littérature. Au fond, pendant l'Antiquité, le sublime, c'est l'emphase. C'est une manière d'utiliser l'emphase pour surligner des effets, et souvent des effets liés à l'héroïsme, disons.
Le mot a évolué, parce que ça, c'est l'époque du pseudo-Longin.
On est vraiment dans l'Antiquité tardive et post-tardive.
Mais c'est bien, merci d'en citer l'origine.
Alors, donc, c'est pas un terme qui est inventé par le XVIIIe siècle, simplement, c'est un terme qui va être complètement remanié au milieu du XVIIIe siècle par les Anglais, par nos chers Britanniques, par Edmund Burke, à un moment où, justement, les Anglais sont porté par la redécouverte de Shakespeare, qu'on évoquait lors d'une précédente émission. Et ils sont très intéressés par leur spécificité, leur poétique nationale, qui s'opposerait justement à la clarté, à l'équilibre de l'Antiquité. héritée de Rome principalement. Donc cette idée d'une perfection cérébrale désincarnée et du coup un tout petit peu inhumaine. Et ce que Burke fait dans son texte, qui est un texte de 1755, qui s'appelle « Essai sur nos idées du beau et du sublime », il oppose les deux notions. La beauté, c'est la perfection, c'est l'équilibre, c'est la symétrie. C'est ce qu'au fond, les architectes, les artistes de l'Antiquité ont très bien fait, mais c'est quelque chose de très cérébral, de très platonicien, si vous voulez. Le monde des idées parfaites, mais le monde des hommes, c'est pas celui des idées parfaites. Donc, justement, Burke, il appelle à une esthétique qui soit plus en prise avec l'humain faillible, l'humain aussi qui peut se hausser très haut en dépassant sa nature. Donc c'est ça le sublime, c'est-à-dire au fond galvaniser tout ce qu'on ressent, galvaniser toutes ses émotions pour se porter plus loin. Et Burke, au fond, il va défendre une nouvelle esthétique, qui est une esthétique de l'obscurité, de l'inquiétude, une esthétique finalement de l'émotion portée à son paroxysme, d'où l'emphase, qui est le sublime. Et c'est très intéressant parce que c'est une esthétique qui s'appuie beaucoup sur la littérature, beaucoup sur Shakespeare, je l'ai dit, ou beaucoup sur des effets théâtraux, des effets sonores, des effets lumineux, l'obscurité, etc. Il va appeler les créateurs, les plasticiens, à intégrer ces effets qui existent déjà dans le théâtre et à les intégrer dans leur œuvre. Et c'est lui qui va les amener à appeler les artistes à s'intéresser à ce qu'on ne gardait pas jusqu'alors, c'est-à-dire les éléments déséquilibrés, les gouffres, les précipices, les cascades, toutes ces choses-là qui sont complètement nouvelles et qu'on ne regardait pas auparavant parce que ça faisait peur. Hein. C'est ça, cette émotion, ce frissonnement, cette horreur délectable, c'est ça le terme de Burke.
Horreur délectable ou délicieux frisson.
Ou délicieux frisson. Et ce qui est intéressant, là, ça nous ramène à Robert.
Parce qu'il l'a lu, ça, Robert.
Alors, Robert a pu le lire. Malheureusement, on n'a pas l'inventaire de cette bibliothèque. Mais Robert est
quelqu'un qui lit beaucoup. Mais il a été influencé par ce contexte, en
tout
cas.
Il a pu le lire parce que c'est traduit très tôt en français. Et puis parce qu'on a cité Diderot. Diderot, connaissait Robert. Et Diderot a été le principal introducteur de l'esthétique du sublime en France. Et d'ailleurs, le texte qu'on
Donc
a entendu...
Vous pouvez dire que le travail de Robert correspond en France à l'esthétique du sublime ?
Oui, et c'est un aspect qu'on met en avant dans l'exposition, qui est peut-être une petite découverte, ou en tout cas, c'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport à Robert. C'est qu'on a même fait toute une section autour du sublime. On montre justement des précipices, on montre des paysages montagneux, on montre des incendies. En plus, l'incendie pas neutre, hein, l'incendie de Rome, c'est-à-dire le lieu de toutes les perfections détruit par un artiste lui-même, enfin c'est le cauchemar absolu. Tout ça, Robert le met en scène dans des œuvres qui sont extrêmement spectaculaires et qui sont très singulières à l'époque en France. C'est sans doute un des tout premiers artistes qui présente au salon, dès les années 1760-70, c'est très très tôt, des œuvres qui ressortent.
C'est un peu Mansou Desiderio, non ?
Alors, c'est Mansou Desiderio, sauf qu'il ne le connaissait pas, Mansou Desiderio.
Oui, sans doute.
Il était un petit peu oublié.
Mais il n'était pas lorrain, Mansou Desiderio aussi ?
Il était lorrain, mais c'était 150 ans plus tôt. Et puis, Mansou Desiderio revendiquait son origine lorraine, mais enfin, c'est un petit peu comme Claude Lorrain.
C'est un nom inventé, de toute façon.
Il a surtout été actif en Italie, en fait.
Donc,
En Lorraine au XVIIIe siècle. Alors, j'espère que mes collègues spécialistes du sujet ne vont pas me tomber dessus, mais je ne suis pas sûr que Mansou Desiderio que son aura, que sa notoriété est très, très 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 grande. Robert a pu voir des œuvres de Mansou Desiderio dans les collections italiennes qu'il a visitées au XVIIIe siècle. Je suis pas sûr que
sans forcément l'identifier.
Non, mais par contre, en revanche, d'autres artistes qui sont des artistes parasublimes, qui sont en train de créer cette esthétique de la ruine, du désastre, notamment Vollère, qui lui est un artiste d'origine française, mais qui est à Rome dans les années 1760, en même temps que Robert, et un des tout premiers à représenter des incendies. Et Robert l'a collectionné. Donc, non seulement il l'a sans doute rencontré à Rome, mais il s'est intéressé à ses œuvres. Et c'est ça qu'il va ramener à Paris, ce frisson, cette inquiétude. C'est un aspect qui est très ténu dans son œuvre, puisque la production de Robert, il faut qu'on le dise, c'est énorme. C'est ça c'était un des problèmes de l'exposition, c'est que au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de catalogue raisonné de l'œuvre de Robert, c'est-à-dire un catalogue qui répertorie toutes les œuvres dont on aurait connaissance pour l'œuvre de Robert, parce que tous ceux qui l'ont commencé, pour le moment, sont quasiment morts d'épuisement, malheureusement. Enfin, en tout cas, ne sont pas arrivés au bout jusqu'à présent.
Donc, ne l'entreprenez pas.
Et donc, je vous remercie. Mais donc, sans doute, plus d'un millier de peintures, des milliers de dessins, c'est vraiment énorme. Donc les œuvres sublimes, c'est très peu par rapport à cette production qui est énorme, mais sont des œuvres extrêmement spectaculaires, souvent de grand format. Ils sont des œuvres qui sont importantes, ce sont des œuvres qu'il a pris soin d'exposer au salon. Donc, qui ont été commentées, bon, parfois par Diderot, parfois par des critiques un peu moins prestigieux, mais ils ont été pris en compte. Et puis, elles ont souvent des commanditaires qui sont très importants, puisque le grand incendie de Rome qu'on présente dans l'exposition, là, qui fermera ses portes le 30 mai, malheureusement, qui vient de Pavlos, il a été peint pour la cour de Russie.
Ça veut dire que nos auditeurs ont une journée encore après cette émission pour aller voir l'exposition. Donc là, le dernier jour de l'exposition, c'est-à-dire demain, foncez.
Après l'exposition, sera à Washington, mais donc c'est un petit peu plus loin. Et il n'y aura pas exactement la même sélection. Et notamment, le grand incendie de Rome qui nous a été prêté par les musées russes, par le château de Pavlovsk, ne sera pas à Washington. Il est venu que pour Paris, que pour
donc,
nous.
Donc ne volez pas à Washington, foncez au Louvre. C'est le moment peut-être d'écouter un extrait du poème intitulé « L'imagination » de Jacques Delisle, écrit en 1806, et dans lequel Jacques Delisle raconte une aventure. Arrivé à Hubert Robert, parti visiter les catacombes de Rome, et dès que nous aurons entendu ce poème, nous sauterons dans une autre aventure d'Hubert Robert, notre héros aujourd'hui, celle du Louvre. Et là, vous allez voir, c'est étrange.
Jaloux de tout connaître, un jeune amant des arts, l'amour de ses parents, l'espoir de la peinture, brûlait de visiter cette demeure obscure de notre antique foi, vénérable berceau. Un fil dans une main et de l'autre un flambeau, il entre. Il se confie à ces voûtes nombreuses qui croisent en tous sens leurs routes ténébreuses. Il aime à voir ce lieu, sa triste majesté, ce palais de la nuit, cette sombre cité, ces temples où le Christ vit ses premiers fidèles et de ses grands tombeaux les ombres éternelles. Dans un coin écarté se présente un réduit, mystérieux asile où l'espoir le conduit. Il voit des vases saints et des urnes pieuses, des vierges, des martyrs, des pouilles précieuses. Il saisit ce trésor, il veut poursuivre, hélas. Il a perdu le fil qui conduisait ses pas. Il cherche, mais en vain. Il s'égare, il se trouble. Il s'éloigne, il revient, et sa crainte redouble. Il prend tous les chemins que lui montre la peur. Jacques Delisle, L'imagination, 1806.
L'imagination d'Hubert Robert, qui est l'artiste que nous évoquons aujourd'hui, en particulier à cause de ce tableau très étrange qui est l'un des deux tableaux célèbres d'Hubert Robert, qui est la vue de la Grande Galerie du Louvre en ruine, est effectivement notre sujet aujourd'hui, et j'ai la chance d'avoir avec moi Guillaume Farou, le commissaire de l'exposition Hubert Robert, pour en parler. Évidemment, quand on visite l'exposition, on voit les chefs-d'œuvre et on n'attend pas particulièrement ces deux tableaux, ou plutôt on oublie sur le parcours, étant donné sa qualité, l'importance de ces deux tableaux. Mais ces deux tableaux manifestent plusieurs choses, entre autres que Hubert Robert a eu des fonctions autres que d'être simplement un peintre.
Hubert Robert a une longue histoire d'amour avec le Louvre. C'est l'occasion pour moi là de rendre hommage à ma prédécesseur, Marie-Catherine Sahut, qui a été donc longtemps en charge des collections de peinture française au Louvre et qui avait fait une remarquable exposition en 1979, vraiment là-dessus, sur la relation quasiment consubstantielle entre le Louvre et Robert. C'est-à-dire que les deux se sont servis. Robert, il fait toute sa carrière au Louvre, déjà parce qu'il expose pendant toute sa vie au salon qui se tient à l'époque au Louvre. Très vite aussi, en tant qu'artiste protégé par le roi, il aura non seulement un atelier, il créera au Louvre, mais il aura même un logement. Il vivra pas que au Louvre.
Pas vous?
Non, pas moi, pas encore, peut-être. Mais non. Robert a d'autres logements, mais enfin, il vit complètement au Louvre. Et puis, à partir des années 1780, il va être nommé garde des tableaux du roi, donc en fond conservateur. Le titre va évoluer, et c'est sous la Révolution que le terme de conservateur, avec l'acception qu'il a aujourd'hui, est adopté. Et Robert donc va être un des premiers conservateurs de la collection royale de tableaux, donc un de mes illustres prédécesseurs. Et à ce titre, c'est lui qui... C'est pas lui tout seul, mais il fait partie des commissions qui imaginent, à la fin du règne de Louis XVI, avant la Révolution, le projet, qui était un projet génial de présenter les collections nationales, les collections royales d'œuvres d'art, peintures, sculptures, antiques, dans le palais du Louvre, un palais qui était habité par les artistes à l'époque, mais on avait l'intention de l'aménager pour y présenter au mieux les collections. Et ça, au fond, ça va nourrir les dernières décennies de la vie de Robert, puisqu'il sera de toutes les commissions, notamment il sera membre des commissions architecturales qui vont penser l'aménagement du bâtiment, et penser surtout l'aménagement de la galerie la plus majestueuse, qui s'appelle encore aujourd'hui la Grande Galerie, qui est cette galerie de pas tout à fait un kilomètre, qui fait plutôt moins de 500 mètres, enfin qui longe la Seine.
Et dans laquelle les rois autrefois faisaient de la chasse aux renards à cheval.
Alors pas tout à fait, non, pas tout à fait, mais dans une galerie effectivement qui avait une fonction, disons, de sans doute de délassement, et puis enfin tout bêtement de passage aussi entre les Tuileries et le Louvre qui était à côté, et donc on faisait pas tout à fait on chassait plutôt l'imaginaire, hein, on pourchasse encore l'imaginaire dans la Grande Galerie, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que Robert, donc on a encore les documents d'archives qui avaient été publiés à l'époque par Marie-Catherine Sahut, et puis aujourd'hui Catherine Voiriot, qui a été la grande collaboratrice dans ce projet, qui a fait toutes les recherches historiques sur Robert, qui a mené un travail remarquable, et c'est très touchant parce que Robert a une carrière officielle extrêmement riche, donc on le voit quasiment dans toutes les commissions s'intéresser, proposer des solutions pour l'aménagement de la Grande Galerie, et c'est en cela que les tableaux que nous commentons aujourd'hui sont très intéressants, parce que pour nous, les deux tableaux, enfin surtout celui qui présente le Louvre splendide, avec des visiteurs, avec des œuvres d'art.
Alors il faut que je dise à nos auditeurs, parce que on a dit que nous allions examiner attentivement la vue de la Grande Galerie du Louvre en ruine, tableau célèbre, mais il faut que j'explique à nos auditeurs que lorsque ce tableau a été présenté la première fois au salon en 1797, il était présenté dans un salon carré, et en pendant, en vis-à-vis, en miroir, il y avait un autre tableau dont je vais vous dire le titre, et qui est « Projet pour éclairer la galerie du musée par la voûte et pour la diviser sans ôter la vue de la prolongation du local », dit aussi « Projet pour la transformation de la grande galerie », et qui est un tableau exactement de la même taille, c'est-à-dire que dans un cas, vous avez le tableau qui représente la grande galerie telle qu'elle n'existe pas encore, mais qu'elle existera 20 ans plus tard. Et de l'autre côté, vous avez déjà la vue de la grande galerie en ruine, alors que elle n'a pas encore été, si je puis dire, construite.
Alors la grande galerie, elle a été construite sous Henri IV, c'est-à-dire que l'espace vide existait déjà depuis
mais les
serliennes,
là, ça n'existait pas.
Alors, mais c'est ça qui est fabuleux, c'est que au fond, c'est ça que j'ai compris en travaillant sur ce projet, c'est que Robert, c'est un artiste qui travaille autant avec les formes qu'avec le temps. C'est en cela qu'il a tout compris de la poétique des ruines, c'est-à-dire que les deux tableaux que Robert nous présente ne sont rien moins que des projets, et celui qui présente la grande galerie dans un format très palatial, au mieux de sa forme, c'est un projet qui, au fond, c'est prédictif. C'est-à-dire que finalement, Robert va être réalisé. C'est-à-dire que, alors Robert, il reprend un certain nombre de propositions qui avaient été faites par les architectes de son temps, contemporains pour la Grande Galerie. C'est pas lui qui invente complètement, il adopte des idées qui viennent des autres. Simplement, les propositions, lui, son idée géniale, c'est de les transposer dans la peinture. Et là, une peinture qui a tous les prestiges de cette séduction à lui. Et ces peintures, elles sont tellement fortes, tellement belles, tellement puissantes, qu'au fond, elles vont travailler l'imaginaire de tous les architectes qui, par la suite, vont aménager le bâtiment et donc vont concevoir les baies serliennes. À l'époque, la Grande Galerie, elle a une voûte pleine, magnifique, mais absolument pas percée par des grandes verrières.
Qu'elle
a maintenant. Et tout ça n'est pas inventé par Hubert Robert, mais est transcrit par Hubert Robert. Et il est transcrit avec tellement d'art par Hubert Robert que ça va inspirer les architectes qui réellement, eux, vont le réaliser pendant les 150 ans qui vont suivre.
L'imaginaire d'Hubert Robert va être réalisé.
Oui.
J'espère que le premier tableau va être réalisé, mais pas le second.
Personne ne le souhaite. Mais en cela encore, Hubert Robert est très grand, et c'est pour ça qu'il travaille avec le temps. C'est-à-dire que chez Robert, il y a une conscience finalement que les réalisations les plus fortes, les plus puissantes produites par les hommes, et il pense notamment à l'Antiquité, il pense au Colisée par exemple, ce monument romain absolument colossal qui nous a été légué par l'Empire romain, il est parvenu 17 siècles plus tard, il est parvenu quand même amoindri, il est parvenu mais amoindri, ruiné. Et au fond, Robert, il imagine que ce futur, il est possible. Il n'est pas souhaitable, mais il est possible.
Alors, quand vous dites ce futur, c'est la Grande Galerie en ruine. Oui. Alors, je voudrais vous poser une question, et nous reviendrons sur le rapport entre les deux. Mais quand on voit cette grande galerie en ruine, évidemment, on la voit aujourd'hui, on vient de voir à la télévision des musées au Moyen-Orient se détruire, des œuvres d'art s'effondrer. Est-ce qu'il y a, dans un tableau comme celui d'Hubert Robert, une réaction à la barbarie, à l'iconoclasme tel qu'on a pu le voir pendant la Révolution française?
Ah oui, sans aucun doute, vraiment. D'autant que, en ce moment, au Louvre aussi, on présente une exposition qui est très remarquable, consacrée au Musée des Monuments Français, qui est un musée qui est ouvert juste un an avant que Robert peigne le tableau qui nous intéresse en 1795, et qui est un musée où on rassemble en fait tous les vestiges des monuments français, des monuments royaux, des églises qui avaient été vandalisées par les révolutionnaires.
Et Robert, ce musée donc a été conçu par Le Noir.
Alexandre Le Noir, qui était un collègue, qui était aussi quelqu'un qui était un artiste, qui va devenir un conservateur de fait, qui s'intéressait à la préservation de ce qui pouvait être préservé des monuments royaux qui étaient vandalisés par les révolutionnaires. Il faut savoir que le terme vandalisme est inventé aussi par la Révolution. Enfin, la pratique n'est pas inventée, mais elle est beaucoup pratiquée par les révolutionnaires. Mais le terme vandalisme est vraiment créé. C'est l'abbé Grégoire, sauf erreur, qui justement... Ah oui. À partir du moment de dès 1790, on commence à bûcher les symboles de la royauté, on commence à détruire les statues des rois de France, et certains des artistes, certains des connaisseurs s'inquiètent en disant certes le régime politique est en train de changer, mais il faut conserver les témoins du passé, parce que ce sont des témoins déjà de l'excellence artistique de nos ancêtres, et puis ce sont aussi des témoins historiques, il faut les préserver. Donc on crée ce terme de vandalisme en réaction contre l'iconoclasme révolutionnaire. Et au fond, c'est ça qui est intéressant dans le tableau qui représente la Grande Galerie du Louvre en ruine, c'est que quelque part, Robert tend un miroir à ses contemporains, c'est-à-dire qu'il montre à ses contemporains ce que eux-mêmes ont fait de certains des châteaux royaux qui ont été dévastés, qui sont retrouvés dans un état ruiné, pour des raisons idéologiques, puis aussi pour des raisons commerciales, c'est-à-dire qu'on a récupéré les pierres, on a un peu ce qui se passe aujourd'hui malheureusement avec le phénomène de vandalisme dans certaines régions du monde. Et en même temps, Robert, finalement, il tend un miroir qui est un miroir qui est le miroir du philosophe, c'est-à-dire que au fond, toute entreprise humaine, elle va avoir une extension qui va être celle de l'humain, c'est-à-dire une naissance, une apogée et sans doute une sénescence, sans doute et sans doute que la ruine est probable, même pour un projet aussi magnifique, aussi généreux que celui.
Alors, il faut dire que Robert a beaucoup souffert de la Révolution. Il a été lui-même enfermé. Il est passé à quelques jours de la guillotine.
Oui, alors oui. Cela dit, il a été protégé. Je vous disais que il attirait quand même toujours la sympathie. Il est arrêté en 1793. Donc pendant la Terreur, à un moment où tous les personnages qui avaient été très visibles à la fin de l'Ancien Régime étaient suspects. Robert, il a pas du tout d'activisme politique pendant la Révolution, ni contre, ni pour. Enfin, il est pas partisan, disons.
Néanmoins, il a un peu peur parce qu'il propose même de faire un portrait de Marat.
Une fois qu'il est en prison. Ouais. Une fois qu'il est en prison. En fait, ce qui a été assez éprouvant, on est allé ensemble avec Catherine Voiriot aux archives de la police. Donc, quand on va voir les ordres d'arrestation, généralement, quand l'ordre est signé, vous êtes arrêté immédiatement. Et donc, on a vu des centaines d'ordres d'arrestation. Et Robert, c'est le seul ordre d'arrestation où il a 3 semaines, donc le moment où l'ordre est signé et le moment où il est exécuté, il y a 3 semaines. Ce qui veut dire que même parmi les révolutionnaires, même sous la Terreur, Robert, il avait encore des gens qu'il protégeait. Et je pense même qu'il n'a pas dû y croire lui-même qu'il allait se faire arrêter. Enfin, néanmoins, il est arrêté et il passe pas loin de la guillotine. Et on sait que quand il est en prison, il a encore cette capacité à entretenir le moral des troupes. On dit même qu'il a créé une partie de ballon, enfin une sorte d'ancêtre du football dans la cour de la prison pour que chacun reste en pleine forme. On sait qu'il reste très chaleureux, mais Catherine Voiriot publie un certain nombre de lettres qu'il a écrites quand il était en prison. Il est assez désespéré. Lui, il pense qu'il va...
Il peint des assiettes assez bien.
Il peint des assiettes. Alors là aussi, c'est très intéressant parce que sans doute, il est quand même peintre toujours et avant tout, donc ça lui permet de ne pas se désespérer. Et puisque Catherine Voiriot a montré, c'est que ses assiettes, dans un premier temps, quand il est arrêté, il a quasiment rien sous la main, il n'y a pas de toile, etc. Il a quand même un tout petit peu de... Très vite, il se fait passer des pinceaux, etc. Et il peint sur les assiettes qui servaient à lui fournir la nourriture. Et ce que Catherine a montré, c'est qu'il continue à les vendre plutôt bien, alors qu'il est toujours en prison. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même aux portes du tombeau, Robert, il y a une sorte de puissance de vie. Et d'ailleurs, on a après des témoignages où il essaie toujours de se faire payer les œuvres qu'il avait produites pendant son incarcération.
Alors, je voudrais vous dire, puisque nous regardons cette grande galerie du Louvre en ruine, d'un côté, il y avait au salon de 1897, donc la grande galerie du Louvre, telle qu'il l'imaginait une fois les œuvres accrochées, et il se représente lui-même en train de recopier un tableau de Raphaël sous le buste de Raphaël, une sainte famille. Et de l'autre côté, il reste des œuvres. Alors, quelles sont... Qu'est-ce qui reste dans ce Louvre en ruine?
Alors, c'est essentiellement des sculptures. C'est ça qui est très fascinant.
La peinture ne dure pas.
La peinture disparaît. Et là, sans doute, c'est un témoignage du Robert archéologue. C'est-à-dire que la grande déception des archéologues au XVIIIe siècle, c'est que, bon, on redécouvre le Laocoon, on redécouvre l'Apollon du Belvédère, on redécouvre les Vénus. Mais les œuvres de Zeuxis, les œuvres d'Apelle, les œuvres des grands peintres de l'Antiquité, elles sont disparues pour jamais.
On ne sait rien. Ouais.
Alors, donc sans doute, il y a cette espèce de d'évanescence de la peinture, qui peut être qui peut être un aiguillon, qui peut être un fantasme, qui peut être une inquiétude pour un peintre. Après, il choisit aussi des sculptures qui sont très symboliques.
Bon, déjà, qu'elles sont justement, tout à l'heure, vous disiez que c'était le miroir du philosophe qu'il tendait. Est-ce que l'iconographie qu'il a choisie pour ces sculptures sont un propos philosophique?
Alors, il me semble, parce qu'effectivement, on a une statue de philosophe d'ailleurs qui est ruinée, mutilée. Mais en fait, l'œuvre qui est prééminente dans la grande galerie en ruine, c'est une statue en bronze d'un Apollon, l'Apollon du Belvédère, qui avait été désigné au XVIIIe siècle comme le symbole de la perfection artistique par Winckelmann, qui est le grand théoricien.
Alors c'est dans le tableau, si vous le voyez, cher auditeur, donc il est installé juste devant une double colonnade, une quadruple colonnade, mais enfin bon, je ne sais pas comment le dire justement, donc inspiré de Serlio, on peut y revenir, mais surtout c'est l'un des seuls objets préservé. Il est la perfection de la proportion et de l'imaginaire. Il est au milieu, effectivement, des ruines et tout le reste est fragmenté. Comme si l'expression même de la raison, avec l'artiste qui est en face de lui et qui la mesure, subsistait et donnait encore une chance au futur.
Et ça, il a un geste en plus très impressionnant, puisqu'il est à la fois parfaitement équilibré et il a un geste, il étend son bras, au fond, comme un geste de pacification. Et moi, j'ai envie de le lire comme un geste de défi aussi à l'érosion du temps. Et vraiment, c'est une œuvre très symbolique. Au XVIIIe siècle, l'œuvre, elle a été désignée comme le symbole de la perfection en art.
Et là, vous parlez de l'Apollon.
De l'Apollon du Belvédère. Oui. Et Winckelmann avait dit que c'était une œuvre qui exprimait la noble grandeur et la calme simplicité. C'est-à-dire vraiment la perfection totale, l'équilibre. Et au fond, c'est ce que Hubert Robert présente, c'est-à-dire dans cette grande galerie démesurée, puisque même encore aujourd'hui, la grande galerie, c'est quand même un espace qui semble presque infini. On est ramené à des proportions qui sont des proportions plus mesurables, au fond plus rationnelles, plus équilibrées, plus parfaites, qui sont celles de l'Apollon. Et lui, l'Apollon, il est intact. Et c'est en cela que Robert est un homme des Lumières, c'est-à-dire un homme qui porte un projet qui est un projet humaniste, qui est un projet généreux, c'est-à-dire que même en ruine, le Louvre, il garde sa fonction qui est une fonction de culture, qui est une fonction de transmission de la culture, transmission des arts. Et effectivement, faisant face à la statue de l'Apollon du Belvédère, au cœur même du tableau, quasiment au centre du tableau, on a un artiste, en costume Renaissance d'ailleurs, chez Robert, il y a toujours le jeu sur les temporalités.
Ah, oui, oui.
Marie-Catherine Sayeux avait proposé que ce soit une sorte de vision rêvée du peintre Raphaël, le grand peintre de la Renaissance.
Oui,
donc
oui.
Deux génies qui se rencontrent, deux expressions du génie. L'œuvre d'art parfaite, l'Apollon du Belvédère, et Raphaël, qui était à l'époque de Robert considéré comme le génie absolu de l'histoire de l'art, le grand homme de la Renaissance. Cette possibilité que même au sein des ruines, l'histoire du génie humain peut éclore à nouveau, au fond, cette idée du cycle et celui de la nature aussi, c'est-à-dire que les civilisations, elles grandissent et elles meurent, mais elles retournent à la terre, comme les ruines, mais porteuses d'une graine qui va féconder l'esprit humain à nouveau. Et au fond, c'est sans doute ce qu'il dit dans cette vue de la Grande Galerie en ruine. C'est en cela, je pense que c'est un tableau qui est très profond, c'est un tableau qui parle de la... de la fureur du temps, qui parle de la fureur des hommes, des destructions des hommes. Je pense qu'il y a des allusions à l'iconoclasme, au vandalisme. Mais il y a aussi, Robert est un philosophe, parce qu'il a conscience, disons, du meilleur et du pire dans l'homme. Le pire, c'est la destruction, les massacres, les guerres. Et il en a vécu de son temps, parce que là, la Révolution est une période extrêmement tragique, dramatique. Mais au sein même de la destruction, il a foi encore à la capacité de l'homme de se réinventer, de se renouveler et de projeter, au fond, la création, le rêve.
Je voudrais revenir une seconde sur les figures. Est-ce qu'on peut les lire simplement, par exemple, est-ce que le philosophe renversé, une sorte de Socrate comme ça, c'est la sagesse retournée? Est-ce que le Gaulois mourant, c'est la nation effondrée? Est-ce qu'on peut faire une lecture très directe?
Alors,
où est-ce qu'on appauvrit? Et je ne sais pas ce qu'il y a au pied de l'Apollon du Belvédère. Il y a un buste, je ne sais pas qui est.
On retrouve le buste de Raphaël. Qu'un buste qui était présent dans la Grande Galerie, peinte par Robert et qui s'y trouve d'ailleurs aujourd'hui. Donc au fond, il y a cette idée quand même de la manifestation des grands génies. Effectivement, hein, au pied de l'Apollon du Belvédère, c'est bien le buste de Raphaël.
Donc c'est un face-à-face.
C'est un face-à-face, au fond, il y a ça. Et puis ce qui est très intéressant, vous l'avez évoqué, donc quasiment au pied de la statue, on a aussi trois personnages qui sont penchés sur une œuvre qu'ils viennent de découvrir. Donc un antique, une statue, un fragment de statue antique, et c'est une tête, de Minerve, enfin la déesse de la sagesse. Donc il y a vraiment cette idée, au fond, de régénération et d'espace de culture. Je pense que c'est, au fond, il a choisi. Alors effectivement, il faut pas imaginer Robert comme un artiste dogmatique. Je pense que c'est un artiste qui, comme tous les grands artistes, qui stimule l'interprétation. Il n'arrive pas avec tout un système allégorique qui serait complètement bouclé et qui serait complètement, disons, cadenassé. Mais néanmoins, je pense que lui-même souhaitait, enfin, qu'on puisse méditer, prolonger ou construire une réflexion à partir du tableau qu'il propose. Et de fait, les œuvres qu'il choisit sont quand même des œuvres qui sont pas anodines. Et effectivement, il y a l'esclave mourant. Alors l'esclave mourant, c'est quand même un des chefs-d'œuvre absolus de Michel-Ange, un des chefs-d'œuvre absolus du Louvre encore aujourd'hui. L'œuvre à l'époque d'Hubert Robert venait de rentrer au Louvre. C'était une œuvre que Michel-Ange avait réalisée pour un pape, qui est arrivée en France en cadeau diplomatique au roi Henri II dès le XVIe siècle, mais qui était conservée à Écouen, enfin dans un château, donc pas du tout au Louvre. Mais la Révolution fait rentrer cette œuvre au Louvre et elle est déjà considérée comme un des très grands chefs-d'œuvre. Donc au fond, il y a une sorte d'évocation des chefs-d'œuvre de la Renaissance qui sont préservés. Sans doute aussi, on peut y voir, parce que l'œuvre était déjà désignée comme un esclave mourant. Donc on est quand même dans un moment qui est un moment politique très fort, un moment de renouvellement aussi de la donne politique et de l'organisation politique d'une nation. Ça, Robert s'y est quand même beaucoup intéressé. Il a pas été partisan, il n'a pas eu un activisme dans les clubs politiques, il n'a pas été un homme politique comme certains grands artistes de son temps, comme David par exemple, David s'est retrouvé président de la Convention même, donc il a eu une fonction vraiment imminente. Robert pas du tout, mais il s'est intéressé beaucoup à ce qui se passait autour de lui, il s'est intéressé notamment aux promesses de renouvellement qu'ont été par exemple la destruction de la Bastille, la fête de la Fédération, tout ce qui pour lui au début de la Révolution était porteur d'un élan d'un élan d'une communion nationale. Ça l'a beaucoup intéressé. Et cette idée de régénérer la politique, ça l'a beaucoup intéressé. Donc, représenter un esclave mourant, à la fois comme un symbole, mais aussi comme un appel au dépassement, et une prise en considération, disons, de ce que son époque portait, oui, je pense que c'est présent dans son œuvre.
Alors, il y a d'autres personnages dans le tableau. Jeunes femmes qui regardent une énorme cuve en train de bouillir, je ne sais pas, et donc avec un feu derrière. Il y a des enfants, des silhouettes au loin. Quelle est la différence entre la ruine d'Hubert Robert et la ruine de Friedrich? C'est-à-dire de ce peintre romantique allemand dans lequel on voit aussi des Brandons continuer à luire dans des églises détruites.
Je pense qu'en fait, celle de Friedrich, elle est au fond avant tout esthétique. Alors après, esthétique, ça peut être un projet de vie, un projet politique.
Mais, ou spirituel, en l'occurrence, pour Friedrich.
Spirituel,
Non.
Oui, bien sûr. Vous avez, vous me traquez là où je voulais pas aller, mais oui, bien sûr, très fortement. Alors, pour revenir à Robert pour essayer de m'en tirer par une pirouette, chez Robert, effectivement, ces ruines, elles s'adressent aux hommes. Et c'est ça qui est très, très, souvent très touchant dans les ruines de Robert. Toutes celles qui émaillent sa carrière, c'est qu'on voit très souvent les ruines transformées en cabanes, transformées en refuges. Et au fond, il y a cette idée que les ruines, toutes grandes, toutes esthétiques qu'elles soient, elles ont d'abord une fonction qui est une fonction de refuge, d'abri, une fonction pour, au fond, conforter l'humanité dans ses moments de faiblesse. Et c'est pour ça, je pense que chez lui, il y a un intérêt pour l'humanité, notamment toutes les classes sociales, avec cette idée qu'il y a une continuité, finalement, entre les empereurs brillants, peut-être mégalomanes, qui ont construit les grands monuments, et les petites gens qui viennent des siècles plus tard s'abriter au creux des ruines. Finalement, la ruine, elle ne déroge pas. Et les personnages qui rassemblent un petit peu les débris épars pour se chauffer, pour s'abriter, n'accomplissent pas un sacrilège. Dans l'œuvre de Robert, finalement, la ruine, elle s'intéresse d'abord à l'humain. Plutôt qu'à Dieu.
Oui.
Plutôt qu'à Dieu.
C'est un bel écart, je pense, par rapport à Friedrich, en effet, dans lequel on a l'impression que une spiritualité se manifeste encore après la mort de Dieu ou l'effondrement des églises, il y a quelque chose comme ça. Et quand, je suppose que la fréquentation de Rome et de la vie naturelle à l'intérieur des ruines a dû participer à cette sorte de possibilité de vivre encore assez bien dans cet univers.
Et c'est sans doute ça qu'il a apporté à Fragonard, c'est-à-dire que quand Robert arrive à Rome, lui, il arrive à Rome très riche de la tradition classique. Donc au fond, les philosophes, il les connaît, il leur parle, et quand il voit les ruines, il a l'impression d'être chez eux. Il n'est pas écrasé. Il n'est pas écrasé par ce dont témoignent ces ruines qui sont en continuité à la fois avec les textes qu'il connaît bien, mais qui sont aussi en continuité avec la vie quotidienne du peuple de Rome, qui sont en continuité avec la nature que vous évoquiez. Il y a une continuité totale, il y a une espèce de légitimité à ce que les ruines soient investies par le peuple et par la flore autochtone.
La flore est une régénérescence, elle a l'air très positive aussi. J'aimais tout à l'heure insister sur le ciel de Trène, parce que c'est vraiment, quand on connaît les ciels marins, c'est vraiment un ciel de fin de cycle, et l'orage a eu lieu, on a l'impression que ça va reprendre.
Ah mais moi j'ai été très... j'ai beaucoup aimé ce passage de votre texte, justement, parce que ça m'a semblé complètement conforme à ce que Robert fait dans le traitement de ces ciels, qui sont effectivement des ciels qui témoignent toujours d'une tempête à venir ou d'une inquiétude qui est passée. Et au fond, là, c'est complètement la pensée même des Lumières qui est la sienne, et de Montesquieu, cette idée des cycles, d'une régénération, mais on n'est jamais dans un temps en dehors de l'histoire, on est toujours pris dans l'histoire et donc dans son mouvement perpétuel et pour pouvoir amener à se répéter. Oui.
Merci beaucoup, Guillaume Farou, de nous avoir accompagnés pour regarder cet extraordinaire tableau d'Hubert Robert. On aurait pu parler d'Hubert Robert, créateur de jardins, décorateur, inventeur de meubles. Il a fait tant de choses. Mais vous pouvez encore donc aller voir pendant une journée l'extraordinaire exposition Hubert Robert au Musée du Louvre.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé une peinture réalisée par Hubert Robert en 1796, intitulée « Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruine ». Elle a eu un autre titre, n'est-ce pas, Guillaume Farou ?
Oui, et c'était un titre beaucoup plus sommaire, en fait. ruines d'après le même tableau. Voilà.
C'est-à-dire vraiment le second, le pendant de l'autre. Et je vous rappelle qu'il vous reste quelques jours pour aller voir la très belle exposition du Musée du Louvre qui réunit un ensemble exceptionnel de 140 œuvres du peintre Hubert Robert, sans parler également de quelques fragonards qui s'y trouvent. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr, remarquablement préparé par Sylvia Favre, notre attachée d'émission et du site internet. Lecture des textes, Gabriel Dufay. À la technique, Alain Joubert. Merci Alain. Réalisation, comme d'habitude, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy, remarquablement préparée par Sandra Adam. Et dans quelques instants, Catherine Libère et Ville Monde.
Go until you come, babe. Come until you go, babe. Go to come. For me, babe, come to God.